Bonjour à tous, bonjour à vous qui nous suivez derrière les écrans. Bonjour aussi à tous ceux qui sont avec nous ce matin. Parmi nous, quelques personnes qui sont là aussi pour la toute première fois, à qui on aimerait vraiment souhaiter une chaleureuse bienvenue. Le culte sera peut-être un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de vivre, mais laissez-vous surprendre. Nous voulons ensemble tourner nos regards et nos cœurs vers la personne centrale de cette matinée, Jésus-Christ. Le roi David, qui est auteur-compositeur, a écrit un certain nombre de cantiques, des psaumes, qui sont des chants et des prières chantées, notamment dans le psaume 92, où il dit ceci, « Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. » Sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et le son de la harpe, ce sont des instruments de l'époque. Ce matin, nous avons batterie, guitare, clavier. En tout cas, c'est de tout notre cœur que nous voulons chanter le Seigneur. Tu me réjouis par ce que tu accomplis, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. On n'a pas trop l'habitude de chanter avec un masque, c'est un petit peu difficile. Mais en tout cas, notre cœur veut se préparer pour ce temps où on veut ensemble dire notre reconnaissance à Dieu et en même temps nous mettre à son écoute. Je vous invite à la prière. Je te remercie Seigneur pour tous les amis qui sont derrière leurs écrans. Je te remercie aussi pour celles et ceux qui sont avec nous ce matin. Nous te prions pour que ce temps de culte soit un moment de joie, un moment de rencontre avec toi, une proximité renouvelée, une expérience personnelle forte. Et en même temps, nous voulons te dire, Seigneur, merci pour parce que simplement nous sommes en vie, parce que nous avons la possibilité de nous adresser à toi et de t'écouter. Merci pour ce qui va suivre. Bénis ces instants. Bénis-nous tous. Amen. C'est Anne qui va, avec son équipe, nous conduire dans ce temps de chant, de louange, de prière, de reconnaissance. Et je lui laisse toute la place.
Notre Père. Amen. Alors oui, comme disait Michel, bienvenue à tous ceux qui sont dans la salle, mais à ceux qui sont derrière leurs écrans. Et comme vous l'avez compris, ce matin, nous, l'équipe de Louange, nous sommes venus pour célébrer et adorer Dieu, et on veut vous amener avec nous. Alors que vous soyez dans la salle ou derrière vos écrans, soyez libres de frapper dans les mains comme vous l'avez fait, de vous mettre debout et vraiment d'élever les mains vers notre Dieu qui est le Dieu plus merveilleux. Amen.
Transforma l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes. Toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi,
Dieu admirable.
Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu.
Tu es bon, combien tu es merveilleux. Seigneur, tout ce que tu es envers nous est indescriptible. Seigneur est tellement puissant et bon. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci parce que nous avons de la valeur à tes yeux. Merci Seigneur pour qui tu es, mon Dieu. Amen.
Oui Seigneur, merci pour ces moments passés ensemble, Jésus. Merci parce que tu permets chaque chose, Jésus. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu renouvelles chaque matin, Seigneur, ta présence, ton amour dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta vie dans la nôtre, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, mais surtout merci pour qui tu es, Jésus. Parce que tu es ce Dieu inébranlable, incomparable, Seigneur. Vraiment que nous puissions vivre cela chaque jour que tu fais, Jésus.
Merci pour ta toute puissance, merci pour ton immense bonté et merci pour ta fidélité. Merci parce que chaque jour nous pouvons te voir à nos côtés, à l'œuvre, dans nos vies, Seigneur. Tu es à l'œuvre et tu es si précis, tu es si parfait dans tout ce que tu fais. Et même si parfois nous doutons, même si parfois c'est difficile, tu es encore là, Seigneur. Et nous le savons, tu es à nos côtés et tu ne nous lâcheras jamais parce que tu l'as promis. Merci Jésus pour toutes les merveilles que tu accomplis, pour tout ce que tu fais dans nos vies.
Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Au selon et si merveilleux, au selon si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu sans nous, alors Jésus, tu es venu. Son amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus.
Jésus,
tu es son rival,
puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureuse. Attaché à la croix,
à travers de ce chant, vraiment que vous puissiez réaliser. Il est dit attaché à la croix, mais il a été crucifié. Des clous ont été plantés dans leurs mains, dans ses mains, pardon, et dans ses pieds. Parce qu'on a mal agi. Son sang a été versé pour me rendre libre. Amen.
Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, le sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère.
Amen. Christ était mort pour nos péchés, bien plus il est ressuscité. Et c'est juste une joie immense et indescriptible. Et on va continuer avec ce dernier chant qui nous dit que Dieu vienne toucher ma vie. Et c'est vrai qu'on va entendre un message encore de la parole de Dieu. C'est juste énorme d'entendre parler de Dieu librement. Et que vraiment ce chant puisse encore nous travailler, préparer nos cœurs.
Ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi et tout en moi est ému par ton amour. Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
J'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. J'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul. tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur viens toucher ma vie à nous. Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
Seigneur, viens toucher ma vie. C'est notre prière, c'est notre désir, notre souhait, car lui est capable de remplir notre être intérieur par sa présence et nous donner ce dont nous avons besoin. Notre plus grand besoin, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ, qu'il vienne ainsi remplir nos vies. C'est ce que nous souhaitons aussi pour chacun et chacune d'entre vous. Quelques informations à vous communiquer avant de laisser la place au message de l'Évangile. D'abord un grand merci à Anne et un grand merci à toute l'équipe des chanteurs et des musiciens qui nous ont conduits dans ce temps de prière. Je rappelle que vous pouvez vous inscrire pour participer au prochain culte. Il y a une plateforme sur le site internet de l'EPI que vous pourrez donc trouver. Et sur la plateforme, vous trouverez également toutes les mesures à nouveau qui sont répétées. Je pense qu'il est important qu'on puisse sans arrêt faire connaître ces mesures sanitaires pour le respect de chacun et pour la sécurité donc de tous. N'hésitez pas, il y a encore bien de la place. Chacun a l'air de dire, eh bien moi je laisse ma place pour que quelqu'un d'autre puisse venir. Et à force de le dire, eh bien finalement, on se retrouve moins nombreux que la semaine dernière. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous. Nous ne pouvons pas encore accueillir les enfants. En tout cas, les enfants au-dessus de 11 ans, nous pouvons les accueillir, mais pas en dessous, mais pas les enfants en dessous de 11 ans. Merci de m'aider. Donc merci aussi de votre patience pour cela. En tout cas, inscrivez-vous, n'hésitez pas, rejoignez-nous et nous serons heureux de vous saluer, de vous accueillir. Si vous vous inscrivez, évidemment, merci de respecter votre engagement pour permettre, bien sûr, au plus grand nombre de venir. Nous accueillons ce matin l'orateur de la journée, Emmanuel Menlein. Emmanuel Menlein est conférencier, il est évangéliste, il est formateur, il est youtubeur, il a plus d'une corde à son arc et c'est surtout un ami aussi, un ami de l'EPI, ce n'est pas un inconnu, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez qu'il rayonne dans la francophonie sous le label de l'organisation France Évangélisation. Il est venu avec son fils Raphaël, qu'on salue bien aussi ce matin, bienvenue Raphaël. Et on salue aussi toute sa famille et on lui laisse maintenant la place pour le message que Dieu a mis sur son cœur.
Voilà, bonjour à chacun d'entre vous, heureux d'être avec vous ce matin pour ce culte un peu particulier. En regardant l'EPI, je me disais tout à l'heure, je crois que c'est la première fois que je vois l'épi aussi clairsemé avec des personnes à gauche, un petit peu éparpillées, à droite aussi. C'est vrai que ça fait drôle d'être avec le masque. Et je suis content de pouvoir l'enlever pour pouvoir prêcher ce matin. Il y a quelques instants, nous avons eu ce chant attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Et j'aime bien ce chant parce que ce chant résume tout le message de l'évangile. L'évangile, c'est pas bien compliqué. L'évangile, c'est Christ qui est venu, Christ qui a été attaché pour nous à la croix, qui est ressuscité le troisième jour, qui est vivant et qui sauve aujourd'hui. Ça, c'est le message de l'évangile. Et c'est parce que Christ est vivant, parce qu'il agit, parce qu'il est présent, qu'aujourd'hui, nous autres, nous pouvons avoir, en tant que chrétiens, comme nous allons pouvoir le découvrir ensemble ce matin, une autorité spirituelle. Vous l'avez compris, c'est la thématique qui était annoncée pour ce culte. Ce matin, j'aimerais aborder avec vous la question de l'autorité spirituelle. Et dans quelques instants, nous allons voir un petit peu ensemble ce que recouvre cette expression d'autorité spirituelle que nous utilisons parfois un petit peu dans nos milieux. Il y a une chose que j'ai constatée au travers des années et de mon service en tant qu'évangéliste, en tant qu'enseignant, c'est que bien des chrétiens n'ont pas conscience de l'autorité spirituelle que le Seigneur leur a confiée. Et cela se traduit de différentes manières, entre autres, régulièrement, dans le cadre de mon service, j'ai des personnes qui m'appellent, qui me contactent par mail, d'autres personnes aussi qui parfois me contactent via les réseaux sociaux et qui me disent « Écoute, est-ce que tu pourrais prier pour moi ? Je vis une oppression spirituelle, je suis actuellement embêté, je ne m'en sors pas. Est-ce que ça serait possible d'avoir un rendez-vous pour que tu pries de manière spécifique et précise ?» pour mon souci. Et avec les années, la réflexion, de plus en plus, aujourd'hui, je me situe et je dis parfois aux personnes, écoute, je ne vais pas prier pour toi. Alors rassurez-vous, je continue toujours de prier pour des personnes, mais de plus en plus, je dis aux personnes, eh bien écoute, prie pour toi-même. En tant que chrétien, tu es enfant de Dieu et tu as toute l'autorité nécessaire pour pouvoir prier par rapport à cette oppression spirituelle que tu vis. Et parfois les gens sont surpris. Alors justement ce matin, pour ne plus être surpris et pour ne plus avoir forcément besoin de faire toujours appel aux serviteurs que Dieu place sur nos chemins, ou alors tout simplement à des chrétiens, des frères, des sœurs dans la foi, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un petit peu ce qu'est l'autorité spirituelle. Mon objectif n'est pas d'épuiser le sujet, c'est pas de tout dire, mais j'aimerais avec vous ce matin simplement, pratiquement aussi, poser quelques jalons pour voir un petit peu de quoi est-ce que nous parlons lorsque nous abordons cette question de l'autorité spirituelle. Nous allons ouvrir nos Bibles ou allumer nos smartphones, si votre Bible est sur votre smartphone, et nous allons lire un premier passage à la fin de l'évangile de Marc, un passage bien connu, un passage que nous citons souvent dans le cadre de l'annonce de l'évangile et du fait que l'évangile est aussi accompagné de signes miraculeux. Alors je ne vais pas étudier ce passage puisque ce matin je fonctionne plutôt, non pas de manière textuelle, en prenant un texte et en l'étudiant, mais plutôt sous forme de thématique et donc je citerai au fur et à mesure plusieurs passages bibliques. Et dans un premier temps, je vous propose de prendre ce verset de Marc 16 et nous allons lire le verset 16, nous allons commencer là, il nous est dit ceci, « Celui qui croira » et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Un passage donc qui n'utilise pas cette notion ou ce terme d'autorité ou de pouvoir, mais qui y fait référence, de manière implicite. Pourquoi ? Parce que si nous pouvons annoncer l'évangile, si nous pouvons chasser des démons, poser nos mains sur les malades, eh bien c'est lié au Christ et c'est lié aussi quelque part, c'est sous-entendu, à l'autorité qu'il nous a confiée. Posons-nous déjà la question dans un premier temps et regardons un petit peu ensemble qu'est-ce que l'autorité ? Qu'est-ce que nous entendons derrière ce terme d'autorité ? Si je prends le dictionnaire, l'autorité, c'est tout simplement le pouvoir de commander. C'est le pouvoir d'être obéi. C'est le pouvoir qui est conféré à une personne pour commander, pour diriger d'autres individus. En tant que parents, par exemple, nous avons une autorité sur nos enfants. Si vous êtes parent et que vous demandez, par exemple, à votre enfant de faire quelque chose, eh bien, normalement, il va s'exécuter. Je dis bien normalement, parce que parfois en pratique, c'est un petit peu plus difficile, plus compliqué, surtout à certaines périodes données de la vie. Et ce principe de l'autorité où nous sommes soumis à quelqu'un d'autre, nous le rencontrons dans toutes les sphères de l'existence. Ce matin, lorsque je suis venu, je me suis garé sur le parking et je me suis mis à un mauvais endroit. Je cherchais de l'ombre comme tout le monde et je n'avais pas capté qu'il fallait qu'il y ait de la place entre deux voitures. Et donc je me suis garé à un endroit où je ne devais pas et celui qui s'occupe du parking est venu très gentiment me signaler et me dire que ça ne joue pas et qu'il fallait que je me déplace et que j'aille à un autre endroit. Et donc en faisant cela, qu'a-t-il fait ? Il a usé de manière bienveillante, chaleureuse, fraternelle de son autorité en me demandant tout simplement de me mettre ailleurs. Nous vivons ce principe de l'autorité dans toutes les sphères. Si vous êtes patron, par exemple, ou si vous avez un poste à responsabilité dans le cadre de votre travail, quand vous demandez à un collaborateur de faire quelque chose, il va s'exécuter. Donc, à la fois, nous vivons ces deux aspects. D'une part, nous exerçons sur d'autres personnes, dans différentes sphères de notre vie, ce principe de l'autorité ou l'autorité. Et puis, d'autre part, nous sommes, nous aussi, toujours soumis à d'autres autorités, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient... La Bible, nous voyons que Dieu a créé l'homme... Est-ce que je peux juste avoir la bouteille d'eau, s'il te plaît ? Ou Raph, tu peux me... Merci. Voilà, je disais que... Excusez-moi, je vais juste boire un petit peu... Ça va tenir. Je dis que Dieu a créé l'homme pour qu'il exerce l'autorité divine sur la terre. Nous voyons cela par exemple dans le livre de la Genèse au chapitre 1 et au verset 28 lorsque « Reproduisez-vous et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » On notera ici, dans le livre de la Genèse, les impératifs qui sont utilisés. ...8 qui abonde dans ce sens et où il nous est dit ceci, « Qu'est-ce que l'humain pour que tu t'en soucies ?» Tu en as presque fait un Dieu, tu le couronnes de gloire et d'éclat, tu le fais régner sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui court les sentiers des mers. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que dans la création, Dieu accorde à l'être humain une place exceptionnelle, particulière au sein de sa création. Comme le souligne un commentateur biblique, et je lui reprends cette expression à laquelle nous ne sommes pas habitués, l'être humain est le vicaire de Dieu sur terre. C'est-à-dire qu'il est le remplaçant, le suppléant dans le sens où Dieu lui a donné pouvoir et autorité sur toute chose. C'est à l'homme que Dieu a confié toute autorité pour que celle-ci s'exerce dans ce monde. Bien sûr, non pas n'importe comment, non pas de manière sauvage, comme malheureusement nous le voyons parfois, ça c'est venu à cause de l'entrée du péché dans le monde et de la méchanceté qu'il y a dans le cœur de l'être humain, mais pour qu'il exerce cette autorité de manière bienveillante, tout simplement. Alors cette autorité ne s'exerce pas simplement sur l'ordre créationnel, et nous ne développerons pas ce matin cet aspect-là, mais cette autorité, comme nous le voyons aussi, en particulier dans le Nouveau Testament, elle s'exerce aussi sur le monde spirituel, c'est-à-dire sur les principautés, sur les démons, sur les esprits méchants. Cela ressort en particulier du Nouveau Testament. Vous avez par exemple l'apôtre Paul qui dit, dans l'Épître aux Éphésiens, un passage que nous connaissons bien, que nous citons aussi régulièrement, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des pouvoirs dans ce monde de ténèbres. » Ou alors, selon une autre traduction qui apparaît peut-être en dessous de votre écran, « Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. » Et c'est justement de cette autorité spirituelle dont il va être question ce matin et qui parfois est méconnue ou alors mal comprise chez certains chrétiens, d'où parfois aussi des oppressions spirituelles, des problèmes spirituels qui peuvent durer, perdurer pendant des années et qui vont avoir des difficultés à se régler. Alors avant de vous expliquer un petit peu comment est-ce que cette autorité spirituelle peut concrètement se vivre, se manifester, on va regarder d'abord un petit peu comment est-ce que cette autorité spirituelle, elle s'exerce, elle fonctionne. Et le meilleur exemple pour en parler, c'est justement de voir et de faire référence à la personne de Jésus. Alors, Jésus, parce qu'il est fils de Dieu, parce qu'il est Dieu en chair et en os, parce qu'il est l'envoyé de Dieu, et aussi parce que Dieu lui a confié tout pouvoir et toute autorité dans le ciel et sur la terre, possède en lui-même, c'est-à-dire intrinsèquement, toute l'autorité. Il a tout pouvoir. Et nous voyons cela dans les évangiles se déployer de manière très différente. Prenons quelques exemples. Jésus a autorité, ou plutôt il parle avec autorité. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 7 et au verset 29, il nous est dit que les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Pourtant, vous le savez, Jésus n'avait pas de formation académique. Jésus n'avait pas de diplôme. Il n'avait pas de reconnaissance. Il n'avait pas de recommandation. Et pourtant, il nous est dit qu'il enseignait avec autorité. Ça nous montre quoi? Il y a là un premier principe que nous pouvons dégager pour nous aujourd'hui, à savoir que l'autorité, elle vient toujours de quelqu'un d'autre. Et si Jésus, justement, enseignait avec autorité, c'est parce que cette autorité, il l'avait reçue non pas des hommes, non pas de diplôme, comme je l'ai dit, mais tout simplement parce qu'elle lui a été donnée par le Père. L'autorité, notez-le, vient toujours d'une autre autorité supérieure, elle vient toujours d'en haut. C'est vrai de Jésus, mais c'est aussi vrai de tout chrétien de manière générale, ou alors de toute personne qui exerce un ministère. Si vous exercez un ministère, je ne sais pas moi, pasteur, évangéliste, ou alors si vous exercez un ministère dans la louange, un service, autre, l'enseignement parmi les enfants, ou plein d'autres services qui existent, que ce soit des services plus spirituels ou pratiques, eh bien, ça ne vient pas parce que vous avez suivi une formation, mais c'est parce que Dieu vous a communiqué à la base quelque chose. Bien sûr, ça va être reconnu par les êtres humains, ça va être validé aussi par une formation qui sera nécessaire, mais ce n'est pas le fait de suivre une formation qui va vous donner de l'autorité ou davantage d'autorité. Donc Jésus, il a ça en lui-même. Nous trouvons ce principe que je viens d'expliciter, par exemple dans l'Épître aux Éphésiens, encore au chapitre 4, lorsqu'il nous est dit que Dieu a donné. Donc ça nous montre bien que ça vient toujours d'en haut. C'est Dieu qui donne quelque chose, c'est vrai pour le Christ, mais c'est vrai aussi pour toute personne. Un exemple pour illustrer cela. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de travailler avec un ministère ivoirien qui m'avait invité sur la place Jean-Paul II à Yamoussoukro pour une nuit de louanges, d'évangélisation. Et j'avais eu l'occasion de prêcher l'évangile entre 1h et 3h du matin. C'est la première fois que je prêchais à 7h de la nuit. Et en plus, il me laissait 2h. Donc moi qui suis assez long, j'étais content. J'avais du temps. Et cet homme qui m'avait invité avait quand même réussi à réunir pour cette nuit près de 23 000 personnes qui étaient présentes. Et cet homme a un témoignage particulier. Il s'appelle Marcel, c'est un petit bonhomme, un gars qui paye pas de mine. Et lorsqu'il était jeune, il travaillait dans un champ de cacao. Il n'avait pas eu l'occasion de faire d'études. Il maîtrisait juste le langage local. Il parlait même pas français correctement. C'est quelqu'un qui était très simple, et dans son champ de cacao, le Seigneur est venu, il s'est révélé à lui, il l'a sauvé, et lui a mis à cœur de le servir. Et un pasteur qui a vu ce qui se passait dans la vie de cet homme, a décidé de le prendre avec lui sous son aile, et puis de commencer à l'emmener pour des tournées. Alors au début, c'était le pasteur qui prêchait quand il allait dans les églises. Et puis le petit Marcel, il était à côté, il faisait pas grand-chose, il priait juste. Et un jour, le pasteur lui dit, écoute, cet après-midi, c'est toi qui vas prêcher. Et quand les gens de l'église ont entendu ça, ils se sont dit, ah ben non, nous on veut pas que ce soit Marcel. Lui, ça sera probablement pas très intéressant, il va rien se passer, on veut que ce soit le pasteur. Mais puisque c'est le pasteur qui avait l'autorité, il a dit, non, ce sera Marcel qui va prêcher. Et puis l'après-midi, il est venu. Il a prêché un message très simple et ensuite il a commencé à prier pour les gens qui avaient des problèmes spirituels ou qui étaient malades. Et là, tout d'un coup, paf, il y a des démons qui se sont manifestés, qui ont été expulsés, il y a des personnes qui ont été guéries et le Seigneur a commencé à se manifester de manière assez extraordinaire, spectaculaire au travers de ce petit homme. À tel point que par la suite, c'était le pasteur qui devait reprendre l'enseignement et les gens ont dit « Non, on veut pas que ce soit toi qui prêches, on veut que ce soit lui qui prêche et qui prie pour nous maintenant. » Alors, que s'est-il passé ce jour-là? Ce qui s'est passé ce jour-là, tout simplement, c'est que Dieu avait appelé cet homme, il lui avait donné des dons, il l'avait qualifié pour ce travail aussi et il lui avait donné aussi une certaine sphère d'autorité dans sa vie qui ce jour-là, eh bien, s'est manifesté et a pu impacter des personnes. Ça nous montre tout simplement le principe que je viens d'édicter il y a quelques instants, à savoir que l'autorité vient toujours d'en haut. Nous voyons aussi dans les évangiles d'autres aspects sur lesquels je vais passer plus rapidement, à savoir que Jésus a aussi autorité sur les démons. Par une seule parole, il va chasser des esprits mauvais. Son autorité se manifeste également sur la maladie. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et effectivement, Jésus se manifestera à plusieurs reprises ou exercera son autorité sur des malades en disant à un malade, eh bien, lève-toi et marche. Effet surprenant, Jésus n'a pas besoin de s'y reprendre deux fois ou trois fois. Il dit et la chose arrive immédiatement. Et ça va très très loin puisqu'il ressuscite même des morts. Lorsqu'il se retrouvera devant la tombe de Lazare, il prononcera deux paroles. Lazare, sort. Et pas besoin d'y revenir une deuxième, une troisième, une quatrième ou une cinquième fois. Puisqu'il est la parole incarnée, puisqu'il est connecté à Dieu et puisque tout ce qu'il fait est toujours en conformité avec la volonté de Dieu et puisqu'il a reçu tout pouvoir du Père, lorsqu'il dit quelque chose, ça s'accomplit, y compris lorsqu'il s'adresse par exemple aux éléments, à la mer, et qu'il dira par exemple « silence, tais-toi ». Tout ça pour souligner quoi ? Tout ça pour dire simplement que l'autorité de Jésus est une autorité que je qualifierais hors catégorie, elle est pleine, elle est totale, elle est entière, elle est liée au fait qu'il est fils de Dieu, envoyé de Dieu et qu'il accomplit les œuvres du Père. Autre point que nous voyons aussi par rapport à cette autorité, c'est que très rapidement, Jésus va la déléguer. Je ne m'étendrai pas sur cet aspect-là. Il la délègue d'abord aux 12 disciples. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. On remarquera ici au passage que puissance et autorité vont toujours de pair. Elles fonctionnent ensemble. Et effectivement, les disciples partent, ils annoncent le royaume de Dieu, ils chassent des démons et ils guérissent des malades. Avec, semble-t-il, une grande facilité, ou une facilité déconcertante, à tel point que lorsqu'ils reviennent voir Jésus, ils diront « même les démons nous sont soumis en ton nom ». Alors pourquoi étaient-ils tant surpris de voir que les démons étaient soumis ? Tout simplement parce que dans la pensée de l'époque, chasser des démons, c'était très difficile. Il existait des exorcistes ambulants, mais qui n'avaient pas du tout le succès de Jésus ni des premiers chrétiens. Et c'est pour cela qu'ils étaient tout surpris de voir que par la parole, ça fonctionnait. Eh bien oui, puisque Jésus leur avait délégué cette autorité. Ensuite, on voit que Jésus va plus loin, il délègue cette autorité, pas simplement aux 12, mais ensuite il les délègue aussi à 70 autres disciples. Luc 10, verset 1, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et au verset 18, il leur dira, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors ce chiffre 70 est très intéressant, pourquoi ? Parce que, en réalité, ce chiffre 70 nous parle, le chiffre 7, et vous savez que le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection, de la plénitude, et dire le chiffre 7 ou 70, c'est un multiple de 7. Et par conséquent, ces 70 personnes représentent effectivement 70 disciples, mais comme l'ont remarqué l'ensemble des chrétiens à travers les âges, ça représente aussi tous ceux qui se reconnaissent dans la personne de Jésus, c'est-à-dire qui pensent que Jésus est mort pour eux à la croix et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Donc par conséquent, quelque part, ces 70, nous en faisons partie. Et vous avez un autre passage aussi qui va dans ce sens, que nous trouvons à la fin de l'évangile de Marc, où il nous est dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Et donc ça nous montre quoi ? Ça nous montre que Jésus a autorité. Il délègue cette autorité aux 12, et puis ensuite, c'est beaucoup plus large que cela, c'est généreux. Pourquoi ? Parce que Jésus souhaite accomplir que son œuvre se développe, il la délègue aussi à 70 autres personnes qui représentent l'ensemble des croyants. Ça va, vous me suivez toujours ? Alors la question qui se pose, et c'est une question importante à laquelle nous devons réfléchir quelques instants, parce que il n'y a pas de position universelle. La question, c'est de savoir ici, est-ce que nous autres, aujourd'hui, est-ce que nous avons encore une autorité spirituelle ? Et dans le monde évangélique, vous avez deux grandes positions, avec des nuances bien sûr, qui existent. Vous avez d'abord une première école, et il faut la citer puisqu'on aborde ce sujet, on va essayer de le faire de manière sérieuse, qui pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus l'autorité. C'est-à-dire que nous n'avons pas cette possibilité de chasser des démons, de nous adresser à des esprits, de libérer des personnes, d'avoir une démarche à l'égard d'autres personnes un petit peu similaire, semblable à celle de Jésus. Et à celle aussi des 12 apôtres et des premiers chrétiens. Alors vous allez me dire, mais sur quoi se base-t-il? Il se base sur le fait suivant, sur le fait que, comme je l'ai dit il y a quelques instants, dans la Bible, l'autorité qu'on voit se manifester chez Jésus et chez les douze, c'est une autorité qui est pleine, qui est entière. Jésus n'a pas d'échec. Jésus n'a pas besoin de s'y reprendre à plusieurs reprises. Et donc ils disent, eh bien nous aujourd'hui, lorsque parfois on chasse des démons, eh bien ça va prendre du temps. Et puis parfois il faudra s'y reprendre à plusieurs reprises. Lorsqu'on prie pour des malades et qu'on dit à quelqu'un lève-toi et marche ou sois guéri au nom du Christ, ou qu'on prie pour cette personne, l'expérience nous montre que bien des individus ne sont pas guéris. Donc vous disent-ils, eh bien, nous n'avons plus cette autorité. Cette autorité était juste liée à la personne de Jésus et à la personne des douze. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, nous ne pouvons plus avoir cette démarche. Ça va être un petit peu leur manière de dire les choses. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Ce n'est pas ma manière de voir, de considérer les choses. Néanmoins, que pouvons-nous répondre à cela ? Eh bien, nous voyons que les disciples ont quand même eu des échecs, en tout cas avant la Pentecôte. Et puis, après la Pentecôte, nous voyons l'apôtre Paul, qui lui aussi avait une autorité extraordinaire, puisque par exemple, lorsqu'il est sur l'île de Malte, je relisais le passage ces derniers jours, il nous est dit que tous les malades de l'île ont été guéris, ou tous ceux qui sont venus à lui. Donc, on voit quand même que c'est une autorité qui est une autorité apostolique. Et pourtant, l'apôtre Paul n'a pas été guéri personnellement, et pourtant, il a laissé au moins deux de ses collaborateurs malades. Un certain Trophime qui a été laissé malade, et puis son jeune poulain, Timothée, qui lui aussi souffrait de maux de ventre. Et on ne pense pas qu'il a été guéri de ces maux de ventre. Donc, pour Paul aussi, ça n'a pas toujours fonctionné. Et puis vous avez une deuxième école qui dit que tous les chrétiens ont une autorité spirituelle. Mais il convient un petit peu d'en préciser les contours. Dans certains milieux, lorsqu'on parle de l'autorité, on donne parfois cette impression que nous aurions le même niveau d'autorité que Jésus ou alors que les douze. Et c'est peut-être aussi pour cela que d'autres personnes qui ont des manières de voir différentes peuvent nous reprocher cela. Et nous dire, mais regardez, vous priez, ça fonctionne pas. Mais moi, je pense que, il est important de préciser les contours de cette autorité. Et comme je disais, dans certains milieux, on a l'impression que ça fonctionne, que ça marche à tous les coups. Et vous avez des chrétiens qui citent volontairement, ou volontiers plutôt, ce passage où Jésus dit, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et disent-ils, eh bien nous aussi, on accomplit des œuvres qui sont plus grandes que Jésus. Là, il faut réfléchir quelques instants et se poser la question, mais quelles sont ces œuvres plus grandes dont Jésus parle ici dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 12? Pouvons-nous faire des œuvres plus grandes que celles de Jésus? Quand on réfléchit quelques instants à cette question, nous ne pouvons pas faire d'œuvres plus grandes que lui. Il est le plus grand, celui que nous avons élevé ce matin. Nous ne pouvons pas faire des miracles plus grands que ceux de Jésus. Certes, il y a eu dans le christianisme, dans diverses traditions chrétiennes, y compris dans la tradition pentecôtiste, des personnes qui ont eu des ministères fabuleux, avec de nombreux miracles, des signes, des résurrections, mais c'était toujours en deçà du Christ, et c'est normal. Alors, dans quel sens faut-il comprendre ce passage? Eh bien, je vous propose de comprendre ce passage, plutôt non pas dans le sens par rapport à des miracles ou à l'expulsion de démons, mais de le comprendre par rapport à l'annonce de l'Évangile. Jésus, lorsqu'il était sur terre, son ministère, vous le savez, était restreint. Il a annoncé son Évangile à un petit public. Mais nous, aujourd'hui, depuis la Pentecôte, depuis que le Saint-Esprit a été répandu, eh bien, désormais, nous pouvons annoncer l'Évangile dans le monde entier. Et c'est dans ce sens-là que je vous propose, en tout cas, c'est la lecture que je vous propose d'en faire ce matin, de comprendre et de lire ce passage. Il ne s'agit donc pas de miracle plus grand que celui de Jésus, c'est lié à l'annonce de l'Évangile. Alors, il faut se rappeler ici que nous avons une autorité spirituelle, mais peut-être préciser ce matin qu'elle n'est pas du même niveau que celle de Jésus, ni de celle des douze, ni de Paul. Et puisque nous croyons en Jésus, puisque nous sommes unis à lui, nous avons une autorité. Une autorité qui est liée à quoi? Une autorité qui est déjà liée à notre statut d'enfant de Dieu. À partir du moment où nous naissons de nouveau, nous sommes enfants de Dieu, nous entrons dans le monde spirituel, et donc par conséquent, nous sommes connectés au Seigneur et nous avons une certaine forme d'autorité qui est là. Qui est, je le précise, qui n'est pas un don, mais qui est lié tout simplement au fait que nous sommes croyants, connectés au Christ. Et puis ensuite, cette autorité peut être liée parfois aussi à un ministère, un service particulier auquel le Seigneur peut nous appeler, donc à un appel, et ça c'est important. Et puis cette autorité, disons-le aussi, pour que nous ne prenions pas la grosse tête, est toujours liée à la personne de Jésus. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Et sans Jésus, nous ne pouvons rien. Donc par conséquent, pour pouvoir vivre cette autorité, il ne suffit pas simplement d'être enfant de Dieu, mais il faut aussi se soumettre à lui de manière inconditionnelle. Et le secret peut-être se trouve ici. Plus nous allons nous soumettre au Seigneur, et plus nous allons chercher à vivre et à dépendre de lui, et plus cette autorité, par conséquent, va pouvoir se manifester. Et je précise aussi ceci par rapport à l'autorité. Cette autorité est aussi proportionnelle à la confiance que nous allons avoir dans la personne de Jésus ou dans la puissance de Jésus. Et plus notre confiance en Jésus grandit, plus nous nous soumettons à lui et plus le Seigneur aussi va nous utiliser dans ce sens-là. Moi, je me rappelle les premières fois où j'étais confronté à des personnes qui avaient des problèmes d'oppression spirituelle, soit des problèmes de démonisation, soit tout simplement des problèmes d'oppression spirituelle. Eh bien, au début, j'étais fébrile. Au début, je n'étais pas très assuré. Au début, j'avais même des questions qui trottaient dans ma tête. Mais est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va marcher? Pourquoi? Parce que je regardais à moi-même. Et c'est au fur et à mesure, à commencer à en prier pour des personnes, en voyant des personnes qui ont été libérées, des gens qui ont été guéris et autres, qu'on se dit, mais ça fonctionne, ça marche. Ce n'est pas lié à nous-mêmes, mais c'est lié à la personne de Jésus. Et plus nous apprenons à connaître Jésus, à faire confiance à Jésus, eh bien plus cette autorité va tout simplement pouvoir s'exprimer, grandir en nous. Et parfois nous pouvons vivre des choses qui sont magnifiques, qui peuvent être même très très belles. Donc je le dis et je le redis encore une fois ce matin, je suis convaincu et je crois qu'en Christ, tout chrétien a une autorité spirituelle. Et par conséquent, je ne suis pas d'accord avec cette première école que je vous ai détaillée rapidement tout à l'heure. Même s'ils attirent notre attention sur certains écueils qui parfois peuvent nous concerner, je crois et je pense qu'en Christ, nous avons une autorité. Certes, ce n'est pas la même que les douze, ce n'est pas la même que celle de Jésus, c'est normal, puisque nous restons des êtres humains, mais néanmoins, elle est forte, et parfois même dans des circonstances bien particulières, elle peut se manifester de manière très très forte. Je vous donne un exemple, pour vous montrer que cette autorité peut être liée aussi à l'exercice d'un ministère. J'ai un ami qui est pasteur, c'est son ministère premier. Il exerce aussi un ministère prophétique et il y a de cela 2 ans, il était invité en Inde pour prêcher l'évangile. Et il n'est pas du tout évangéliste, c'est pas du tout son don, bien sûr, comme tout chrétien, tout pasteur, il sait prêcher l'évangile, mais c'est pas du tout son charisme premier. Et puis, prêcher l'évangile de manière simple, c'est pas évident pour lui. Et quand il prie pour les gens, généralement, il voit rien se passer, il voit pas des gens qui vont être guéris, rien du tout. Il a rien reçu à ce niveau-là. Et il est invité pour aller prêcher l'évangile là-bas, et ils insistent pour que ce soit lui qui vienne. Et donc il s'est longuement préparé, il a vraiment prié, et il a dit « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'équipes d'une manière toute particulière. » Et pendant ce temps de mission où il était en Inde, voilà que pendant une nuit, non seulement le Seigneur lui donne les messages qu'il devait annoncer avec une facilité, une fluidité qui, ça l'a surpris. Il s'est dit, mais habituellement, je n'annonce pas l'évangile de cette manière-là. Mais le Seigneur lui a aussi, l'a aussi revêtu d'une autorité spéciale, tant et si bien que lorsqu'il avait terminé d'annoncer l'évangile, il priait pour les personnes à la fin, et il m'a dit, j'ai vu des démons partir comme j'ai jamais vu ça, et j'ai vu des guérisons, j'étais surpris, quoi. Et une fois qu'il avait terminé sa mission, il est revenu chez lui, et ce qu'il avait vécu là ne s'est plus du tout manifesté. Il a continué à exercer son ministère de pasteur, à exercer le ministère prophétique, parce que c'est la manifestation de l'Esprit-Saint classique, normal chez lui, puisque ça correspond au don que le Seigneur, à l'appel que Dieu lui a donné. Mais le don d'évangéliste qu'il avait eu et l'autorité particulière qui était liée à ce ministère, il n'a pu l'exercer que dans le cadre où il était. Donc tout ça pour nous dire quoi? Que parfois Dieu aussi, dans des circonstances particulières, peut nous donner un supplément de dons ou d'autorité aussi pour pouvoir exercer une œuvre spécifique. Je regarde où est-ce que j'en suis. L'autorité est donc proportionnelle à la confiance que nous avons aussi en la puissance de Jésus. Un ou deux points pour terminer mon intervention de ce matin. Cette autorité s'exerce toujours par la parole, et en particulier aussi dans la prière. Alors par rapport à la manière de procéder, il est nécessaire ici de saisir ou de comprendre quelque chose. Lorsque nous prions par rapport à une oppression spirituelle, à des liens que nous pouvons avoir identifiés chez nous, chez quelqu'un, par rapport à un combat spirituel que nous pouvons vivre, nous ne demandons pas au Seigneur d'intervenir. Il y a parfois des chrétiens qui prient et qui disent « Seigneur, interviens, fais quelque chose, agis ». Alors, dans d'autres circonstances, c'est tout à fait juste, légitime de prier ainsi. Mais dans le cas que nous citons ce matin de l'autorité spirituelle du chrétien, nous n'allons pas prier de cette manière-là. C'est l'histoire d'un évangéliste qui se trouvait un jour sur un bateau avec plein de chrétiens pour une grande traversée. Et puis voilà qu'il y a un feu qui se déclare sur ce bateau. Et c'est quelque chose qui prend de l'ampleur à tel point que ça devient dangereux pour la vie des passagers. Et donc, tout un groupe de chrétiens décide de se réunir en dessous du navire, dans une pièce en particulier, et puis d'intercéder pour ce qui est en train de se passer. Et puis, tout le monde cherche cet évangéliste, on attend qu'il conduise cette réunion de prière, qu'il donne des directions, etc. Personne ne le trouve, il y a quelqu'un qui monte sur le pont, et voilà que le gars, il est sur le pont, en train de prendre un seau et d'aider les autres pour essayer d'éteindre ce feu. Et un chrétien vient le voir et lui dit « Mais écoute, c'est pas là que tu dois être, tu devrais être avec nous en bas, en train de prier. » Et lui va les regarder et leur dira tout simplement « Eh bien écoute, c'est pas le moment de prier maintenant. Maintenant, c'est le moment d'agir. » Et donc quand je parle de cette prière d'autorité, c'est une prière d'action où nous nous adressons à l'ennemi qui est là, qui vient nous oppresser, et où nous disons à l'ennemi de nous laisser tranquille, de partir, d'aller sous les pieds de Jésus, tout simplement. Vous comprenez la différence entre les deux aspects? Parce que si nous prions et nous demandons à Dieu d'intervenir, les résultats ne seront pas du tout les mêmes. Il y a des choses qu'il nous appartient de faire, et puis il y a des choses aussi que le Seigneur va faire. Et cette autorité spirituelle, nous pouvons donc l'exercer pour secourir d'autres personnes, en priorité bien sûr des frères et des sœurs dans la foi. Et ça peut être très efficace. Il y a quelque temps de cela, il y a, pendant ce temps de confinement que nous avons vécu, il y a un frère qui me téléphone, dans un autre pays et qui me fait part d'une oppression spirituelle particulière qu'il vivait dans un domaine de sa vie Et c'était quelque chose de terrible, parce que ça le prenait, pas simplement dans son âme, mais ça le prenait dans tout son corps. Et lui-même avait déjà prié à plusieurs reprises de la bonne manière, mais il était vraiment coincé. Et donc parfois on a besoin que quelqu'un d'autre prie de manière explicite pour nous. Et ce jour-là, de manière très simple, eh bien, j'ai prié pour lui. Et dernièrement, il y a 15 jours de cela, je l'ai eu au téléphone et il me disait qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. C'est-à-dire que le Seigneur est venu et qu'il l'a libéré à ce moment-là. Mais cette autorité spirituelle, nous pouvons l'exercer sur d'autres, mais nous pouvons aussi l'exercer sur nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que bien des chrétiens ne savent pas ou alors dont ils n'ont pas conscience. C'est ce qui s'appelle tout simplement l'auto-délivrance. Puisque nous connaissons le Seigneur et que le Saint-Esprit est en nous, nous pouvons par conséquent identifier les attaques spirituelles de l'ennemi et par conséquent, nous pouvons prier pour nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose que bien des chrétiens ne savent pas, dont ils n'ont pas conscience. Je vous donne un exemple pour vous montrer comment ça peut se manifester. J'ai un de mes amis qui vient d'un passé, qui a un passé très chargé au niveau de l'occultisme, qui s'est converti il y a 4 ans de cela, qui a été libéré en plusieurs étapes, ou par plusieurs étapes. Alors quand on dit que quelqu'un a vécu plusieurs libérations, vous voyez, c'est aussi lié à l'autorité. Si Jésus était là, présent, et que les apôtres étaient là, ils prieraient immédiatement, ça serait réglé le problème. Mais nous autres, nous sommes à la suite du Christ. Et parfois, nous sommes obligés de prier à plusieurs reprises pour quelqu'un. Il y en a qui nous le reprochent, qui nous disent « mais ça fonctionne pas ton truc ». Mais si, ça marche. Mais c'est lié à quoi? Ce n'est pas lié au Seigneur. Le Seigneur est et reste tout puissant. Mais il y a les temps, il y a les circonstances de Dieu, il y a parfois des facteurs aussi qui nous échappent, des choses que nous ne saisissons pas, que nous ne comprenons pas. Et puis certaines personnes ne peuvent pas vivre aussi une libération immédiate et être entièrement libérées parce qu'elles ne le supporteront pas physiquement. Donc on a besoin de s'y reprendre des fois à 2 ou 3 reprises. Et donc lui, il avait vécu plusieurs temps de libération, il était vraiment en cheminement, il aimait le Seigneur, il avait été baptisé, il suivait le Christ. Et puis voilà qu'une nuit, il se réveille. Et là, tout d'un coup, il est pris d'angoisse en repensant à certains faits précis de son passé. Et là, il sent que les angoisses qui montent, c'est quelque chose de spirituel. Et c'est tellement fort qu'il se retrouve à genoux, par terre, en train d'avoir envie de vomir. Il m'a dit que c'était terrible. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Et là, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais m'en sortir? On est en pleine nuit, je ne vais pas téléphoner à Manu, je ne vais pas téléphoner à des amis, je ne veux pas les réveiller. Et là, il s'est passé quelque chose, il s'est rappelé de la manière dont nous prions pour lui, ou d'autres personnes avaient prié pour lui. Et tout d'un coup, il a commencé à prier pour lui. Non pas en demandant au Seigneur d'intervenir, ça on peut le demander de manière globale, mais en disant et en commandant à ces esprits qu'il avait identifiés et qui l'oppressaient de le quitter, de partir au nom de Jésus et de le laisser tranquille. Et là, il a senti des choses qui sont parties, qui sont sorties de lui, et à partir de ce moment-là, il n'a plus eu besoin de revenir là-dessus, il était libéré. Et il était très surpris quand quelques temps après, il me téléphone, il me dit « écoute, ça marche ». Je dis « ben bien sûr que ça marche ». Puisque tu es un enfant de Dieu et puisque c'est entièrement lié à la personne de Jésus-Christ. Alors il y aurait bien des aspects encore à développer sur cette question de l'autorité spirituelle, mais j'aimerais terminer ce matin par ces quelques notions qui ont été abordées. Déjà réaliser que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un certain degré d'autorité spirituelle. C'est lié à l'ordre créationnel et c'est lié aussi au fait que nous sommes enfants de Dieu. Ensuite, cette autorité se vit dans une soumission au Christ, parce que en dehors de Jésus, comme lui-même le dira, nous ne pouvons rien faire. Certes, si, nous pouvons faire des choses, mais ça n'aura absolument pas d'impact au niveau spirituel. Elle est proportionnelle aussi à la confiance que nous allons mettre et que nous mettons dans le Seigneur. Cette autorité peut être liée aussi à notre appel, appel global, général, ou appel spécifique, au travers de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, et qui peut parfois se manifester dans certaines circonstances. Ensuite, cette autorité, nous pouvons tous l'exercer, tous la vivre. C'est souvent pour ça que je dis aux personnes, eh bien, je ne vais pas prier pour vous. Vous pouvez déjà aller voir les responsables spirituels de votre assemblée, mais vous-même aussi, vous pouvez prier. Parfois même, certains, je leur envoie une prière type, modèle, qu'ils peuvent utiliser. Et les gens sont surpris. Après, ils me disent « ça marche ». Mais bien sûr que ça marche, puisque c'est lié à la personne de Jésus et puisqu'il t'a confié aussi cette autorité. Elle se manifeste dans la prière de manière très simple. Nous n'avons pas besoin de parler très longtemps, nous n'avons pas besoin de crier, nous n'avons pas besoin d'en faire des tartines, comme dirait l'autre, hein, de manière simple, ça peut se manifester. Un exemple encore, il y a 2 ans de cela, avec mon épouse Fabienne, que vous connaissez certains d'entre vous, nous avions suivi la formation avec Gilles Boucaumont, peut-être que certains parmi vous aussi avaient suivi cette formation sur la libération. Et lors de ce temps de formation, comme le propose souvent Gilles, il y a des moments où on peut partager à trois, choisir un dossier, comme il dit, que le Seigneur nous met à cœur, et puis partager simplement. Si on a besoin de se repentir, on se repent. Et ensuite, il invitait les personnes, non pas à demander aux autres de prier pour qu'on soit libéré, mais à la personne elle-même d'être actrice, acteur de sa propre libération. Et ce jour-là, le Saint-Esprit a touché, a éclairé mon épouse par rapport à un domaine de sa vie où elle ne se sentait pas légitime. Et de manière très simple, elle a prié pour cela, comme Gilles nous l'avait proposé. Et puis, ça a duré, je sais pas moi, 15 secondes, même pas. Et puis, le séminaire s'est terminé. Et voilà que quelques mois après, nous étions à la cuisine, en train de préparer le repas. Et tout d'un coup, Fabienne me regarde et elle me dit, mais tu sais, par rapport à ce domaine-là, depuis que j'ai prié pour ça, qu'on a partagé, et que je me suis délié de ça au nom du Seigneur, eh bien, c'est terminé. Le Seigneur m'a libéré par rapport à cela. Si je vous raconte ça, c'est pour vous dire que c'est en réalité très simple. Vous avez parfois dans la famille des enfants, nous on a vécu ça à plusieurs reprises avec nos enfants, les enfants qui vivent des oppressions spirituelles. Eh bien, en tant que parents, vous avez toute l'autorité, c'est là où on peut l'exercer le plus simplement, de prier pour vos enfants. Vous avez des collègues de travail, vous avez des personnes à l'église qui viennent, qui vous partagent des choses, que vous discernez que c'est vraiment spirituel. Eh bien, de manière très simple, vous pouvez encourager la personne aussi à prier tout simplement pour elle-même. Alors, j'aimerais vous inviter maintenant, pour terminer ce temps de culte et d'enseignement, à fermer vos yeux, à incliner vos têtes si vous le souhaitez, et nous allons prendre quelques instants simplement pour prier. Un mot pour finir encore, ou plutôt pour rajouter quelque chose pour ceux qui sont présents, mais aussi pour ceux qui nous regardent en direct sur Internet ou qui regarderont ce culte en différé. Avant de courir, avant d'appeler des personnes, avant de voir des pasteurs, avant de voir des serviteurs de Dieu, rappelez-vous que vous êtes enfants de Dieu, rappelez-vous que Christ vous a confié son autorité et que vous pouvez prier pour vous-même, pour vous délier, pour simplement dire à l'ennemi de partir, de vous laisser tranquille. Si le Seigneur vous révèle quelque chose et que vous avez besoin de vous repentir, eh bien la première étape c'est déjà d'apporter, de confesser au Seigneur et puis ensuite simplement prier pour cela. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te remercier pour ces moments que nous avons pu vivre et que nous pouvons vivre ensemble ce matin. Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as équipés, c'est toi qui nous envoies, c'est toi aussi, Seigneur, qui nous as délégués d'une certaine manière, comme nous l'avons dit, cette autorité. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin parce que c'est toi qui es notre maître, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre champion. En nous-mêmes, Seigneur, nous n'avons rien, mais c'est toi qui nous accordes cela au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont présents. Je te prie aussi pour ceux qui nous suivent en direct maintenant. Et je te prie, Seigneur, pour que tu nous donnes le courage, la force, la foi d'exercer avec une très grande simplicité cette autorité que tu nous as confiée. Merci Seigneur. Amen. Amen.
On va terminer justement avec un chant très très nouveau et qui est... La transition va être dynamique, mais parce que comme il dit, la parole de Dieu a une puissance et Dieu nous l'a donnée parce qu'on a Jésus dans notre vie.
Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire, Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra lui, celle qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire, Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire, Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui celui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi.
Amen.
Merci beaucoup à Emmanuel Menlein pour cet enseignement clair. Bien sûr, tout ne peut pas être dit en une matinée, mais nous comprenons bien qu'il nous laisse quelques pistes pour nous positionner aussi dans la parole de Dieu, dans l'enseignement de Jésus, pour être des chrétiens, bien sûr, équilibrés, mais forts de cette autorité qui nous a été confiée. On vous souhaite vraiment, dans cette journée, dans cette semaine qui vient, de pouvoir mettre en pratique ce qui a été dit ce matin. Notre but, c'est de vous aider, de vous accompagner dans votre quotidien au travers des messages de la parole de Dieu et ainsi de manifester ce témoignage chrétien pour vous-même, dans vos familles, dans vos milieux professionnels et autres, que le Seigneur vous accompagne. Merci à Emmanuel donc pour ce message ce matin. Merci à l'équipe de Louange. Merci d'être présent derrière vos écrans. Merci à vous qui êtes là ce matin. Si vous voulez réécouter ce message, vous pouvez bien sûr aller sur le site de l'EPI, mais je suis sûr que si vous cliquez Emmanuel Mainline sur Internet, vous allez pouvoir tomber sur la page d'Emmanuel avec des modules, avec de la formation, avec toutes sortes de choses, même des messages courts du YouTube. Eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez peut-être même prendre contact avec lui ou prendre contact avec nous si vous le souhaitez. N'hésitez pas, le numéro de téléphone n'a pas changé, soit le fixe, soit le portable, ou vous allez simplement sur le site de l'EPI et vous nous trouverez pour nous contacter. Vous souhaitez réécouter les messages, pas de souci. Vous souhaitez aussi nous soutenir, de la même manière, vous pouvez aller sur le site et vous trouverez toutes les informations nécessaires. Bien, je vous propose de conclure en demandant au Seigneur de nous accompagner encore dans cette journée et toute cette semaine à venir. Nous te remercions, Seigneur, pour cette matinée. Te remercions d'avoir pu nous rencontrer les uns les autres et prendre encore un moment tout à l'heure pour ceux qui sont ici sur place. Te remercions pour ta parole. Elle vient nourrir notre foi. Elle vient aussi consolider des choses que nous apprenons peut-être ce matin ou que nous redécouvrons. Merci pour l'autorité spirituelle que tu nous donnes, ce positionnement dans ta parole et sur la base de ce que tu nous dis. Merci pour Emmanuel Mainline, merci de bénir son ministère, de bénir également son épouse Fabienne et son ministère. Merci pour la mission France Évangélisation, que tu veux aussi accompagner pour permettre à la parole, à l'évangile de se répandre, et aussi pour toutes ces formations qui sont proposées. Nous te prions pour toute cette semaine qui s'ouvre devant nous, et te prions de nous accompagner et de nous aider à mettre en pratique ta parole, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche, et pour ceux qui sont là, bon retour à chacun et chacune.